Carlo y le Monachéran, village du quai de Magnetic Hill. Là où se créent les souvenirs. Carlo a de nouveau déployé ses ailes à leur maximum pour gagner le plus d'altitude possible avant de mettre le cap au nord vers Moncton et le village de Magnetic Hill Wharf, situé au centre du Nouveau-Brunswick. Il sentait les vents du sud souffler en montée, le poussant vers le nord à mesure qu'il prenait de l'altitude. Il savait qu'il profiterait bientôt à nouveau du vent.
En chemin,
il faisait halte au parc naturel d'Irving pour visiter leur nouveau refuge pour les monarques, avant de rejoindre le village de Magnetic Hill Wharf. Ce nouveau refuge regorge de plantes indigènes comme l'asclépiade, et on ne sait jamais qui l'on peut y rencontrer. Carlo atteignait maintenant 450 mètres d'altitude, et les chauds vents du sud le propulsaient plus vite que prévu.
De là,
il pouvait voir tous les oiseaux et les humains se précipiter et s'affairer comme s'ils étaient pressés. Il ne comprenait pas pourquoi ils ne décollaient pas et ne se laissaient pas porter par le vent comme lui. Carlo réfléchissait à cela tout en progressant à une vitesse incroyable, à ce rythme. Il serait au quai de Magnetic Hill avant midi sans le moindre effort, grâce à la chaleur du vent.
En chemin,
il apercevrait plusieurs magnifiques pygargues à tête blanche qui, comme lui, se laissaient porter par le vent. Il les éviterait, il valait mieux les observer de loin que de près. Vu sa petite taille comparée à celle des aigles, il était préférable de garder ses distances. Après une brève escale au parc naturel d'Irving, il reprit son vol vers le nord, porté par le vent. Il pressentait qu'il reviendrait au parc cet été. Le reste du voyage se déroula sans encombre. Malgré la présence de plusieurs grands aigles, les faucons qu'il fallait éviter, leur nombre semblait augmenter à mesure qu'il poursuivait sa route vers le nord. Il sentait l'odeur de l'eau salée dans l'air tandis qu'il survolait le rivage. Il ne comprenait pas pourquoi il se sentait si bien au Nouveau-Brunswick, mais c'était le cas. On aurait dit que c'était inscrit dans ses gènes. Le paysage se mêlait au vent chaud et à la douce brise marine qui soufflait de la baie de Fundy à cette période de l'année. Et il se sentait tout simplement chez lui. Alors que Carlo survolait les terres agricoles environnant Salisbury, juste au sud de Moncton, il aperçut au loin sa destination finale du jour, le Magnetic Wharf Village. Un village maritime incroyable, d'une authenticité remarquable, niché entre le zoo et un immense parc aquatique coloré. Le village portuaire de Magnetic Hill est un endroit vraiment charmant avec son grand étang et son authentique village de quai. L'étang était généralement peuplé de canards et d'autres créatures aquatiques que Carlo devait éviter, comme la grenouille. Cette dernière se tenait habituellement juste sous la surface de l'eau. Pour Carlo, la grenouille était un monstre vert et massif aux yeux effrayants, capable de surgir de l'eau dans un fracas d'éclaboussures, la gueule grande ouverte, la langue fouettant l'air pour attraper ses victimes et les entraîner dans les eaux sombres et profondes où il les dévorait. Cette simple pensée lui donnait des frissons. Il devait éviter l'eau autant que possible. Heureusement, l'étang était bordé d'une profusion de fleurs sauvages du Nouveau-Brunswick. La région était très accueillante pour la nature, et son séjour au village s'annonçait mémorable. Carlo était loin de se douter qu'il le serait vraiment. Carlo descendait lentement vers le village de Magnetic Hill Wharf, admirant le paysage tout en cherchant le meilleur endroit pour atterrir, lorsqu'il perçut une odeur qu'il reconnut comme celle du nectar. Elle semblait provenir de la zone du pont couvert près de l'entrée du parc. En rasant les fleurs sauvages, il put goûter le nectar dans l'air. Il aperçut des violettes bleues des marais, des verges dorées. Effectivement, quelques asclépiades des marais. Il commencerait par les violettes bleues, puis passerait aux asclépiades des marais. La journée s'annonçait belle. Après un moment, Carlo, rassasié de nectar, était prêt à explorer le reste de l'étang avant de trouver un endroit où se reposer pour la nuit. Avec un peu de chance, il trouverait le dortoir habituel des monarques locaux. Ces derniers aiment se percher ensemble la nuit dans les arbres et les arbustes. Mais pour l'instant, il était temps de s'amuser. Carlo s'élança dans les airs, grimpant à une cinquantaine de mètres, puis se mit en position de décrochage en marteau et laissa la gravité faire son œuvre, l'attirant lentement vers l'étang. En plongeant, il l'accéléra, se redressant de justesse et planait la surface de l'eau calme, lisse comme un miroir. Il oubliait la présence éventuelle de prédateurs. Après tout, il s'agissait simplement de s'amuser. Et à cette vitesse, il serait de l'autre côté de l'étang en quelques secondes, hors de danger. À mi-chemin de l'étang, l'eau jaillit juste devant lui, formant un puissant geyser. Quelque chose d'énorme émergeait des flots. Il tourna à gauche pour l'éviter, mais son aile accrocha la surface, le faisant basculer et tomber à l'eau. Flottant à la surface, Il aperçut un canard qui remontait de son repas au fond de l'étang. Carlo commença à paniquer et battit des ailes pour reprendre son envol. Il savait que s'il restait trop longtemps à la surface, il finirait par servir de repas à un prédateur. Le canard ne l'avait pas encore remarqué, mais cela ne saurait tarder s'il ne s'envolait pas rapidement. Soudain, il portait son regard dans l'eau calme et vit une grande créature verte se déplacer sous lui. Ses gros yeux terrifiants étaient ceux d'un prédateur. Carlo se demanda si c'était un poisson ou autre chose. Il continuait de battre des ailes pour s'élever dans les airs et quitter la surface. Cependant, sur cette surface limpide comme un miroir, il signalait aussi à tous les prédateurs des environs qu'il était immobilisé à la surface. Carlo pouvait maintenant distinguer clairement la créature sous lui. Une grosse grenouille verte qui le fixait droit dans les yeux. Pris de panique, Carlo se débattait, essayant de sortir de l'eau. La grenouille était presque à portée de frappe. Heureusement, elle était sous la surface et ne pouvait pas utiliser son arme principale, sa longue langue mortelle. Soudain, Carlo sentit une grosse vague le frapper, provoquée par le canard qui remontait à la surface à côté de lui. Le canard avait bien pensé à manger Carlo, mais en voyant cette grosse grenouille d'eau d'où apparaître, il reporta son attention sur elle. L'onde provoquée par le canard propulsa Carlo vers le haut, lui donnant l'élan tant attendu. En quelques battements d'ailes puissants, il s'éleva dans les airs et commença à s'éloigner de la grenouille qui émergeait à peine de l'étang. Les secondes suivantes seraient cruciales pour sa survie. L'énorme grenouille verte, véritable fléau, jaillit de l'eau et projeta sa langue massive vers Carlo. Ce dernier esquiva sur la gauche tandis que la langue passait à sa droite. Le canard attrapa la grenouille au vol avant même qu'elle n'ait pu rentrer sa langue et l'avala tout entière. Carlo continua de prendre de l'altitude, cherchant un endroit sûr pour se reposer et sécher ses ailes. Il aperçut au loin un dortoir de grands monarques près de la terrasse du village. Il fit demi-tour et se dirigea vers le dortoir, certain d'y être en sécurité. En s'approchant, il constata qu'il ne s'agissait pas d'un dortoir, mais d'une grande sculpture représentant un dortoir de monarque. Néanmoins, c'était l'endroit idéal pour se sécher, baigné de soleil, et il se fondrait parmi les monarques, devenant invisible à la plupart des prédateurs. Il était désormais en sécurité, il était temps de se reposer et de se sécher avant de partir à la recherche de nouveau du nectar. Quelques heures plus tard, Carlo sentit la fraîcheur de la nuit. Il était temps de trouver le perchoir des monarques dans les arbres autour de l'étang. Après quelques minutes, il remarqua un grand arbre près du pont couvert, un endroit idéal pour passer la nuit, abrité. Il serait parfait pour profiter des premiers rayons du soleil. Carlo sauta du haut d'une des ailes sculptées représentant un monarque et commença à grimper vers l'arbre. Il aperçut alors plusieurs autres monarques se dirigeant vers le même endroit. Carlo atterrit sur une branche, aux deux tiers de la hauteur du grand arbre, entre deux autres monarques. Tandis qu'il s'installait, il vit d'autres monarques monter vers le perchoir. Il était temps de se détendre pour la nuit. Et tandis qu'il contemplait le village de Magnetic Hill Wharf, il aperçut des papillons tigrés du Canada sur l'arbre voisin. Ces papillons sont fascinants, ils hivernent au Canada et ne descendent jamais au Mexique. La plupart arborent un plumage aux couleurs uniques, dominé par le jaune et le noir, avec des touches de bleu, d'orange et de rouge. Pour un monarque, le papillon tigré du Canada était familier, mais ce n'était pas un monarque. Il essayait de l'être, mais l'évolution en avait décidé autrement. Après tout, il pond ses œufs sur des arbres et des arbustes à feuilles caduques, et non sur de l'asclépiade. Pour un monarque, pondre ses œufs sur un arbre était pour le moins étrange, sans parler de l'absence de couleur orange. Franchement, c'est quoi ce délire ? Carlo était en sécurité pour l'instant, entouré des siens, de ses amis et de sa famille. Demain serait un jour nouveau. Espérons-le sans les drames et les dangers de la journée. Après tout, il avait eu sa dose d'aventure pour aujourd'hui. Carlo avait maintenant 6 semaines et il devrait bientôt se reposer, laissant la place à ses petits pour assurer la survie de l'espèce. Comme toute chose, le temps passe et le monde continue d'avancer. C'est ainsi que va la vie. Tandis que Carlo s'apprêtait à passer la nuit, plusieurs chrysalides s'ouvraient dans les jardins de Kingsbury. Carlo y vit émerger de sa chrysalide, accompagné de tous ses frères et sœurs, assurant ainsi la survie de l'espèce monarque. Bientôt, ils prendraient leur envol et planeraient au gré du vent. Comme le veut la tradition pour tous les monarques, et le cycle de la vie se poursuivrait. Carlo allait passer les jours suivants à vivre comme un monarque ordinaire. Il trouverait une nouvelle compagne et fonderait une nouvelle lignée de monarques au village du Quai. Chaque soir, Il se poserait sur la sculpture du monarque pour profiter des derniers rayons du soleil. La vie était belle pour Carlo, il avait tout le nectar dont il avait besoin et sa famille était à ses côtés. Le troisième jour de la sixième semaine, Carlo retrouva son jeune fils et sa fille du jardin de Kingsbury. À la fin de ce même jour, il leur transmettrait le flambeau. Carlo Yves prendrait alors le nom de son père. Au gré du vent d'été, il ressentit l'envie irrésistible de retourner à l'étape où il avait vu le jour. Car, comme son père avant lui, il avait désormais la responsabilité d'assurer la pérennité de l'espèce monarque. Il s'envola, porté par le vent, vers sa prochaine destination, le parc naturel d'Irving. Si vous n'avez jamais visité le village de Magnetic Hill Wharf, pensez-y cet été. Ajoutez-le à votre liste de choses à faire. Consultez le lien ci-dessous www.magnetichilloirvillage.ca. By Gary Crosby, MMM, c'est des Canadian Military Veterans.